France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Bonsoir, bonsoir. Donc, je vais essayer de parler de Roland Barthes. Un jour, Adèle Van Redt me dit « J'aimerais beaucoup, puisque je sais que tu aimes Roland Barthes, que tu me parles de ce merveilleux bouquin qui s'appelle « Fragments d'un discours amoureux ». C'est ce fameux bouquin où il y a le résumé extraordinaire de l'état amoureux. À un moment, dans ce bouquin, Barthes dit « Suis-je amoureux ?» Mais oui, puisque j'attends. Je vous propose d'écouter comment Roland Barthes présentait le fragment du discours amoureux à la télévision.
C'est un dictionnaire des affects. Hein. C'est-à-dire que sous certains mots, qui sont rangés un peu effectivement comme dans un dictionnaire, sous chaque mot, il y a des paquets d'affects, des paquets de mouvements psychologiques. C'est donc un dictionnaire, mais ce n'est pas un dictionnaire de sens, c'est un dictionnaire de sentiments. Alors, j'ai appelé chaque rubrique de ce dictionnaire des figures. Donc, chaque morceau, chaque fragment s'appelle, dans mon jargon à moi, une figure. C'est un peu comme une figure de rhétorique, si vous voulez, une figure de langage. Et j'ai donc donné des noms à chacune de ces figures.
Alors, on va parler de Roland Barthes. Pour les jeunes générations, ils savent peut-être pas très bien qui est Roland Barthes. Roland Barthes a écrit en 1977 un bouquin qui s'appelait « Les fragments d'un discours amoureux » qu'il a ouvert à une grande, c'est pas des triomphes de librairie, mais à une assez grande notoriété. Avant, Roland Barthes était un très grand écrivain, professeur au Collège de France. Il avait écrit des livres sublimes, dont un, je vais pas me permettre de vous donner des conseils de lecture, mais dont un qui est extraordinaire, qui s'appelle « Mythologie », qui est une sorte de sociologie sensuelle. Il parle de la déesse 21, du béret de l'abbé Pierre, du catch. C'est un bouquin incroyable. Et d'ailleurs, tous les cours de Barthes, j'en ai suivi quelques-uns, mais il commençait souvent par une phrase de Montaigne, « Très peu de savoir, beaucoup de saveur ». Donc, il y a chez Barthes une capacité sensorielle, physique, sensuelle de la relation aux mots, de la relation aux auteurs. D'ailleurs, il a fait un bouquin merveilleux qui s'appelait « Le grain de la voix ». Donc, Roland Barthes, pour les jeunes générations, c'est en 1977 qu'il écrit « Fragments d'un discours amoureux ». À cette époque-là, il est professeur au Collège de France et il est mort assez tôt. Il est mort dans un accident de voiture épouvantable. Il est mort en 1980, hélas. Et lui qui avait écrit sur la DS 21, sur la mythologie des voitures, eh bien, en sortant d'un déjeuner avec François Mitterrand, je crois que c'était au Balzar, et je l'imagine tellement, le peu que j'ai connu, je l'ai quand même connu un tout petit peu, j'ai été chez lui, on a dîné 3-4 fois, mais il devait être dans cette réflexion intérieure, cette capacité tout à fait unique. Une des choses aussi qui a fait le succès de Roland Barthes, c'est sa voix. Il avait une voix extraordinaire. D'ailleurs, comment j'ai rencontré Roland Barthes? C'est une anecdote personnelle, mais avant d'attaquer les fragments, je vais la raconter. Elle n'a rien d'exceptionnel. J'ai fait un film avec Éric Rohmer qui s'appelait « Perceval le Gallois ». Alors, c'est un film qui était quand même 2h20 d'octosyllabes. Donc, c'est pas passé facilement pour le public. Ça a même été un bide monumental. Perceval, ce qu'a attristé Rohmer, parce que Rohmer avait quand même demandé pour la première fois beaucoup d'argent à la Gaumont. Et lui qui faisait des films qui marchaient avec très peu cher, Le Signe du Lion, La Boulangère de Monceau, La Collectionneuse, L'Amour l'après-midi, Ma nuit chez Maude, et évidemment d'autres films après comme Les Nuits de la Pleine Lune. Pour une fois, Rohmer a fait un film un peu cher et ça a été une catastrophe. Sauf une personne qui s'appelait Roland Barthes qui a beaucoup aimé ce film et qui a écrit dans le Nouvel Observateur tout le bien qu'il pensait du film. Donc, un peu déprimé, on m'a dit « tu devrais aller au Collège de France ». Le Collège de France, c'était l'époque du palace où les gens dansaient toute la nuit et vers 5h30, 6h30 du matin, les gens disaient « venez, on va écouter Roland Barthes ». Alors, il y avait des hordes de gens qui traversaient le faubourg Montmartre et puis ils allaient écouter Roland Barthes. Les cours de Roland Barthes, c'était la merveille. Il y avait 1000 personnes, il y avait des profs, il y avait des abonnés à Télérama, il y avait des gens de la nuit. Il entrait, je m'en rappellerai toute ma vie, avec cette voix merveilleuse, il entrait et disait « Aujourd'hui, c'est le concept du Cessa, le concept du temps qu'il fait. » Et 1000 personnes écrivaient sur leur cahier « Aujourd'hui, c'est le concept du Cessa, le concept du temps qu'il fait. » Et je me souviens de bribes de langage, le classement, le vouloir classer, la possibilité de classer est une activité fortement socialisante. Le classement, c'était comme un mantra pour moi, j'y comprenais absolument rien. Et au bout d'une heure et demie de cours, je débarque près de la table où il officiait comme Freud à l'époque américaine. Il y avait des grands professeurs, des grands psychiatres, des potes à Lacan, tout ça. Et moi, je fais la queue pour parler au maître qui était habillé en veste de tweed sublime. Et j'attends mon tour et je dis « Bonjour, monsieur Barthes, vous avez dit du bien de Perceval le Gallois ». Et il me dit « Oui, je crois que l'époque n'a pas bien compris la qualité de ce film ». Et je lui dis « Je suis Perceval ». Un immense, enfin un temps assez grand, il me dit « Vous êtes Perceval ?» J'ai dit « Oui, je suis Perceval ». Et là, il me dit une phrase étonnante, il me dit « J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Quel est votre rapport au téléphone ?» C'était surréaliste. Dans les années 80, on disait beaucoup « Quel est ton rapport à la sexualité ? Quel est ton rapport à l'argent ?» Jamais on m'avait posé une question aussi incroyable. Quel est mon... C'était en réalité une incarnation de délicatesse. C'était une incarnation de politesse. Il voulait s'interroger sur mon rapport au téléphone. Imaginez que je réponde « Très mauvais, monsieur Barthes, Roland. Très mauvais. » Non, moi j'ai dit ben, « Rapport normal. » Et il m'a donné son numéro de téléphone. Et j'avais l'impression, en sortant, que tout le monde me jalousait parce que j'avais le faune de Roland Barthes. J'avais le faune de Roland Barthes. Et après, j'ai déjeuné quelquefois avec lui. J'étais au théâtre. Je vais vous parler maintenant de ce fragment qui a été un livre immense pour notre génération. C'est une succession de petites choses, vous voyez, de petits concepts. Il y a l'absence, il y a adorable, il y a affirmation, il y a conduite connivence, il y a contact, il y a fading, il y a nuit, il y a obscène, il y a pleurer, il y a potin, etc. Et on va commencer par un texte qui s'appelle « Le petit point sur le nez ». Alors, le mot scientifique, altération. Mot normal, petit point sur le nez. Vous savez, vous avez tous connu, femme ou homme, le premier rendez-vous avec une femme ou un homme que vous idolâtriez ou que vous idolâtrez. Et tout d'un coup, le premier rendez-vous, la femme ou l'homme a une paire de baskets tragique. Alors, les hommes sont affolés parce que tout est merveilleux, sauf pourquoi cette paire de pompes. Alors, les femmes sont plus efficaces, elles se disent « Bon, il y a une petite erreur au niveau des pompes, mais ça peut se réparer ». Mais les hommes n'ont pas cette capacité de résoudre le problème de la tâche du problème. Ça s'appelle le petit point sur le nez, et voilà comment Barthes en parle. Production brève dans le champ amoureux, d'une contre-image de l'objet aimé. Au gré d'incidents infimes ou de traits ténus, le sujet voit la bonne image soudainement s'altérer, se renverser. Rusbrock est enterré depuis 5 ans. On le déterre. Son corps est intact. Et pur, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais il y avait seulement un petit point du nez qui portait une trace légère, mais une certaine trace de corruption. Sur la figure parfaite et comme embaumée de l'autre, reprend Barthes, tant elle me fascine, j'aperçois tout à coup un point de corruption. Ce point est menu, un geste, un mot, un objet, un vêtement, quelque chose d'insolite qui surgit, qui se pointe d'une région que je n'avais jamais soupçonnée et rattache brusquement l'objet aimé à un monde plat. L'autre serait-il vulgaire ? Lui dont j'encensais dévotement l'élégance et l'originalité. Le voilà qui fait un geste par quoi se dévoile en lui une autre race. Je suis ahuri. J'entends un contre-rythme. C'est tout le truc de l'idéalisation. Quand vous idéalisez, quand l'état amoureux c'est lié à l'idéalisation, donc on réinvente l'autre, etc. Mais comme l'autre n'est pas ce qu'on a inventé, ben il y a quelque chose qui se pointe. Ça peut être un épisode de langage. Alors là, il va l'expliquer. J'entends un contre-rythme. Quelque chose comme une syncope dans la belle phrase de l'être aimé. Le bruit d'une déchirure dans l'enveloppe lisse de l'image. On dirait que l'altération de l'image, poursuit Roland Barthes, se produit lorsque j'ai honte pour l'autre. Ça, c'est sublime. Vous savez, au début d'une relation, on se dit « Oh là là, mais pourquoi il est comme ça ou pourquoi elle est comme ça ?» Alors, il développe la peur de cette honte, au dire de Phèdre. Retenait les amants grecs dans la voie du bien. Chacun devant surveiller sa propre image sous le regard de l'autre. Ils savaient vivre, hein, les Grecs, comme dirait Nietzsche. Ah, ces Grecs, ils étaient superficiels par profondeur. Donc, en groupe, à l'époque des Grecs, les gens faisaient des efforts pour ne pas être minables, pour rester l'objet idéal. Or, la honte, dit Roland Barthes, vient de la suggestion. L'autre, au gré d'un incident futile, que seule ma perspicacité ou mon délire saisisse, apparaît brusquement, se dévoile, se déchire, se révèle au sens photographique du terme comme assujetti à une instance qui est elle-même de l'ordre du servile. Je le vois tout d'un coup s'affairant, s'affolant ou simplement s'entêtant à complaire, à respecter, à se plier à des rites mondains grâce à quoi il espère se faire reconnaître. La grande phrase de Barthes, elle est simple, c'est « Quand je suis amoureux, je suis fondé en vérité ». Ça a l'air de rien, mais c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que l'état amoureux, l'homme amoureux, celui qui cherche l'état amoureux, c'est qu'il a la sensation, à mon avis illusoire, d'être fondé en vérité, derrière son personnage social, derrière son masque de la société. Il est aimé, cette croyance naïve et délirante, d'être aimé en vérité, certainement comme la mère vous a aimé.
Sur France Inter, Fabrice Luchini et ses admirations littéraires.
Donc, il voit l'autre s'affolant, s'entêtant à complaire, à respecter, à se plier à des rites mondains, grâce à quoi il espère se faire reconnaître. Parce que la mauvaise image, dit Roland Barthes, n'est pas une image méchante, c'est une image mesquine. Elle me montre l'autre, pris dans la platitude du monde social. Une fois, l'autre m'a dit, parlant de nous, une relation de qualité. Ce mot m'a été déplaisant. C'est merveilleux. Une fois, l'autre m'a dit, parlant de nous, une relation de qualité. Ce mot m'a été déplaisant. Il venait brusquement du dehors, aplatissant la spécialité du rapport sous une formule formiste. Bien souvent, dit Barthes, c'est par le langage que l'autre s'altère. Il dit un mot différent et j'entends bruire d'une façon menaçante tout un autre monde qui est le monde de l'autre. Albertine, dans La Recherche du Temps Perdu, ayant lâché l'expression triviale « se faire casser le pot », le narrateur proustien en est horrifié. Mais il en est horrifié parce que c'est le ghetto redouté de l'homosexualité féminine, de la drague grossière qui se trouve révélée d'un coup. Toute une scène par le trou de serrure du langage. Le mot est d'une substance chimique ténue qui opère les plus violentes altérations. L'autre, maintenu longtemps dans le cocon de mon propre discours, vous voyez à quel point l'autre est un objet de fantasme réinventé, l'autre, maintenu longtemps dans le cocon de mon propre discours, fait entendre, par un mot qui lui échappe, les langages qu'il peut emprunter et que par conséquent d'autres lui prêtent. Maintenant, on va passer à un autre concept qui s'appelle l'absent. Absence. Tout épisode de langage qui met en scène l'absence de l'objet aimé, quelle qu'en soit la cause et la durée, et tend à transformer cette absence en épreuve d'abandon. beaucoup de leaders, de mélodies, de chansons sur l'absence amoureuse. Et cependant, cette figure classique dans Werther, de Goethe, les souffrances du jeune Werther, on ne la trouve pas. On ne la trouve pas, la raison en est simple. Ici, l'objet aimé, Charlotte, ne bouge pas. C'est le sujet amoureux, Werther, qui, à un certain moment, s'éloigne. Or, il n'y a d'absence que de l'autre. C'est l'autre qui part. C'est moi qui reste. L'autre est en état de perpétuel départ, de voyage. Il est, par vocation, migrateur, fuyant. Je suis moi qui aime, par vocation inverse, sédentaire, immobile, à disposition, en attente. J'adore cette phrase. Tassé sur place. C'est là qu'il va dire cette phrase extraordinaire. Être amoureux, c'est quoi? C'est celui qui attend. Tassé sur place. En souffrance, comme un paquet dans un coin perdu de la gare. L'absence amoureux va seulement dans un sens et ne peut se dire qu'à partir de qui reste et non de qui part. Je, toujours présent, ne se constitue qu'en face de toi, sans cesse absent. Dire l'absence, c'est d'emblée poser que la place du sujet et la place de l'autre ne peuvent permuter. C'est dire « je suis moins aimé que je n'aime ». Pourquoi il a eu un grand succès populaire? Parce que c'était juste, ça flirtait avec le compliqué, mais ça ne l'était pas parce qu'il ramenait tout le temps à quelque chose de sensoriel, tellement il a dû être amoureux, Roland Barthes. Historiquement, le discours de l'absence est tenu par la femme. Alors, pas de panique pour toutes les féministes de France Inter. C'est des concepts universels qui sont liés à des mythologies qui dépassent l'époque ponctuelle. Je ne voudrais pas qu'il y ait, au 7-9 du matin, des femmes qui hurleraient contre Roland Barthes. Non, croyez-moi, il dit des choses bizarres, mais elles sont mythologiques. Elles n'ont pas, sont pas réelles. Historiquement, le discours de l'absence est tenu par la femme. La femme est sédentaire, l'homme est chasseur, voyageur. La femme est fidèle, elle attend. L'homme est coureur, il navigue, il drague. C'est la femme qui donne forme à l'absence, en élabore la fiction, car elle en a le temps, elle tisse et elle chante. Les fileuses, les chansons de toile disent à la fois l'immobilité par le ronron du rouet et l'absence. Au loin des rythmes de voyage, les houles marines. Il s'ensuit que dans tout homme qui parle l'absence de l'autre, du féminin se déclare. C'est extraordinaire. Il s'ensuit que dans tout homme qui parle l'absence de l'autre, du féminin se déclare. Cet homme qui attend et qui en souffre est miraculeusement féminisé. Un homme n'est pas féminisé parce qu'il est inverti, mais parce qu'il est amoureux. Quelquefois, il m'arrive de bien supporter l'absence. Je suis alors normal. Je m'aligne sur la façon dont tout le monde supporte le départ d'une personne chère. J'obéis avec compétence au dressage par lequel on m'a donné très tôt l'habitude d'être séparé de ma mère, ce qui ne laissa pas pourtant à l'origine d'être douloureux, pour ne pas dire affolant. Oh, ça, c'est merveilleux, Barthes, hein, pour ne pas dire affolant. J'agis en sujet bien sevré. Je sais me nourrir en attendant d'autre chose que du sein maternel. Cette absence bien supportée, elle n'est rien d'autre que l'oubli. Je suis, par intermittence, infidèle. C'est la condition de ma survie. Parce que si je n'oubliais pas, je mourrais. L'amoureux qui n'oublie pas quelquefois meurt par excès, fatigue, tension de mémoire, tel Werther. Enfant, je n'oubliais pas. Journée interminable, journée abandonnée, où la mère travaillait loin. J'allais, le soir, attendre son retour à l'arrêt de l'autobus à Sèvres-Babylone. Les autobus passaient plusieurs fois de suite. Elle n'était dans aucun. Je m'installe dans un café. Là, c'est le Barthes qu'on adore. Je m'installe seul dans un café et on vient m'y saluer. Je me sens entouré, demandé, flatté, mais l'autre est absent. Je le convoque en moi-même pour qu'il me retienne au bord de cette complaisance mondaine qui me guette. J'en appelle à sa vérité, la vérité dont il me donne la sensation, contre l'hystérie de séduction. Il me fonde en vérité, contre l'hystérie de séduction où je me sens glissé. Je rends l'absence de l'autre responsable de ma mondanité. J'invoque sa protection, son retour, que l'autre apparaisse, qu'il me retire, telle une mère qui vient chercher son enfant de la brillance mondaine, de l'infatuation sociale, qu'il me rende l'intimité religieuse, la gravité du monde amoureux. Ça, c'est remarquable. X me disait que l'amour l'avait protégé de la mondanité. Coterie, ambition, promotion, manigance, alliance, sécession, rôle, pouvoir. L'amour avait fait de lui un déchet social, ce dont X se réjouissait. Un moment bouddhique, un koan bouddhique, c'est-à-dire une pensée bouddhique, a dit ceci. Le maître tient la tête du disciple sous l'eau. Longtemps, longtemps. Peu à peu, les bulles se raréfient. Au dernier moment, le maître sort le disciple et le ranime. Quand tu auras désiré la vérité, comme tu as désiré l'air, alors tu sauras ce qu'elle est, dit le maître bouddhiste. L'absence de l'autre me tient la tête sous l'eau. Peu à peu, j'étouffe. Mon air se raréfie. C'est par cette asphyxie que je reconstitue ma vérité et que je prépare l'intraitable de l'amour. Et bien maintenant, nous allons écouter une musique de chambre composée par Roland Barthes lui-même.
Admiration littéraire de Fabrice Luchini.
Alors nous débouchons maintenant sur agonie. Ça, c'est quasiment mon préféré. Agonie, mot scientifique, agonie, mot normal, angoisse. Le sujet amoureux, au gré de telle ou telle contingence, se sent emporté par la peur d'un danger, d'une blessure, d'un abandon, d'un revirement. J'adore ce mot, d'un revirement, tu vois, l'inquiétude qu'on a tout le temps. Y aurait-il eu un revirement? Sentiment qu'il exprime sous le nom d'angoisse. Ce soir, je suis revenu seul à l'hôtel. L'autre a décidé de rentrer plus tard dans la nuit. Les angoisses sont déjà là, comme le poison préparé, la jalousie, l'abandon, l'inquiétude. Elles attendent seulement qu'un peu de temps passe pour pouvoir décemment se déclarer. Je prends un livre et un somnifère calmement. Le silence de ce grand hôtel est sonore, indifférent, idiot, ronron lointain des baignoires qui se vident, les meubles, les lampes sont stupides, rien d'amical où se réchauffer. J'ai froid, rentrons à Paris. L'angoisse monte. J'en observe la progression, comme Socrate, devisant, sentant s'élever le froid de la ciguë. Je l'écoute se nommer, s'enlever, telle une figure inexorable, sur le fond des choses qui sont là. Le psychotique, selon Winnicott, le grand psychiatre anglais, vit dans la crainte de l'effondrement dont les psychoses diverses ne seraient que des défenses. Et il dit, Winnicott, cité par Roland Barthes, « La crainte clinique de l'effondrement est la crainte d'un effondrement qui a été déjà éprouvé sous le nom de primitive agonie. » En gros, quand vous êtes angoissé de la rupture, un psychiatre pourrait te dire « Ne t'angoisse pas, ça a déjà eu lieu, ça a déjà été expérimenté. » Et là, Barthes reprend « De même, semble-t-il, pour l'angoisse d'amour. » Elle est la crainte d'un deuil qui a déjà eu lieu, dès l'origine de l'amour, dès le moment où j'ai été ravi. Il faudrait que quelqu'un puisse me dire « Ne soyez plus angoissé, vous l'avez déjà perdu. C'est pas elle que t'as perdu, mais vous l'avez déjà perdu dans la petite enfance. » Alors on va continuer pour la merveille qui s'appelle l'attente. C'est la merveille, je l'adore. Ah oui, ça s'appelle l'attente. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé. Au gré de menus retards, rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ça peut être futile ou énormément pathétique. Dans une pièce de Schoenberg qui s'appelle « Attente », une femme attend son amant la nuit dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel, je n'ai pas le sens des proportions. Il y a une scénographie de l'attente. Cette attente, je l'organise, je la manipule. Je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit drame. Ça se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce, pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors, il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu, j'essaye de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données. Que faire? Angoisse de conduite, changer de café, téléphoner. Évidemment, c'est avant le portable, cette époque-là, mais peu importe. Mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de repartir, etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, c'est pas possible. Il aurait bien pu, ou elle aurait pu quand même. Enfin, il ou elle sait bien que... Ah, si elle ou elle ou il pouvait être là pour que je puisse lui reprocher de ne pas être là. Dans l'acte 3, j'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort, explosion de deuil. Je suis intérieurement livide. Telle est la pièce. Elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en un, l'accueil est calme. S'il arrive en deux, il y a scène. S'il arrive en trois, c'est la reconnaissance et l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléa sortant du souterrain, et je retrouve la vie, l'odeur des roses. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente, à ces moments mornes. J'attends et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, qui papotent, qui plaisantent, lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. Ça, c'est magnifique. Dans le café, je regarde les gens qui entrent, qui papotent. J'adore papote. Plaisantent. Eux, ils n'attendent pas. L'attente est un enchantement, poursuit Roland Barthes. Ah, j'adore ce moment-là. J'ai reçu l'ordre de ne pas bouger. C'est marrant, la vision qu'il a, c'est la passivité, c'est très étrange. Hein, c'est comme quelqu'un qui aurait un ascendant sur lui. Il est amoureux que parce qu'il y a un ascendant sur lui. C'est pas du tout un amour dynamique conflictuel, c'est on m'a donné l'ordre de ne pas bouger. L'attente d'un téléphone se tisse ainsi d'interdictions menues à l'infini jusqu'à l'inavouable. Je m'empêche de sortir de la pièce, d'aller aux toilettes, de téléphoner pour ne pas occuper l'appareil. Je souffre de ce qu'on me téléphone. Je m'affole de penser qu'à telle heure proche, il faudra que je sorte, risquant ainsi de manquer l'appel bienfaisant, le retour de la mère. Toutes ces diversions qui me sollicitent seraient des moments perdus pour l'attente. Des impuretés d'angoisse, car l'angoisse d'attendre dans sa pureté veut que je sois assis dans un fauteuil à portée de téléphone, sans rien faire. L'être que j'attends n'est pas réel, vous comprenez ? Et c'est la grande phrase. Suis-je amoureux ? Ça, c'est sublime. Suis-je amoureux ? Ben oui, puisque j'attends. Vous avez compris, au lieu de vous élaborer des concepts compliqués. Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. Et je dois vous donner une anecdote. Quant au théâtre, je parlais au couple un peu que je prenais comme référent. Et je disais, peut-être que la femme, en sortant de la pièce, va dire à son mari, « Quand tu m'attendais au café avant le théâtre, étais-tu dans un tumulte d'angoisse ?» Le mari dit, « Bon non, puisque on avait rencard à 19h. » « Donc, tu n'es plus amoureux. Est-ce que tu m'attendais ?»« Bon non, je savais que tu venais. Suis-je amoureux ?»« Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaye de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré. Exact. J'adore voir en avance. » L'identité fatale de l'amoureux, écoutez bien, auditeur de France Inter, n'est rien d'autre que « Je suis celui qui attend ». Un mandarin était amoureux d'une courtisane. Ça, c'est un petit haïku que Barthes, je l'ai joué pendant une dizaine d'années, donc je vous raconterai ce que je faisais au théâtre avec ça. Un mandarin était amoureux d'une courtisane. « Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre, assis sur un tabouret, dans mon jardin, sous ma fenêtre. » Mais à la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. Comprenez bien ce que dit ce haïku japonais. Un mandarin était amoureux. Et si vous voulez que les auditeurs de France Inter, comme dans le 7-9, nous communiquent leurs impressions, on est ouvert. France Inter est une chaîne qui est ouverte au dialogue. Un mandarin était amoureux d'une courtisane. « Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre, assis sur un tabouret, dans mon jardin, sous ma fenêtre. » Mais à la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. À cette époque-là, des centaines de gens venaient, des hommes politiques. Il y avait tous les hommes politiques de droite, de gauche, du centre. Il y avait Pivot. Tout le monde avait une interprétation. Et je faisais même le mandarin parce que le public était savait pas quoi penser. C'était simple. Un mandarin était amoureux d'une courtisane. « Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre. » Assis sur un tabouret. Dans mon jardin, sous ma fenêtre. Mais à la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. Qu'est-ce qu'il veut dire, Roland Barthes ? Pourquoi il se barre, le chinois ? Enfin, moi, je sais pas si c'est un chinois. Pourquoi il se barre ? Il est fou amoureux d'une nana. Elle lui dit, je serai à vous, mais faut que vous restiez assis sur un tabouret. Je le faisais même en rap, je me souviens, pour que le public comprenne. Ils étaient ahuris, ils me regardaient, ils ne savaient pas quoi penser. Il y a Pivot me disait, c'est parce qu'il a vécu le meilleur moment, il n'a pas envie de concrétiser. Il y en a d'autres, des psychiatres très connus. Alors, les hommes politiques, c'était vague. Il y avait des psychiatres qui me disaient, la peur de la castration, de la pénétration dans le continent noir. Tout le monde avait une opinion. C'est pour ça que j'attends les auditeurs de France Inter, le 7-9. Réfléchissez, suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends.
Fabrice Luchini et ses admirations littéraires.
Je tiens vraiment à remercier pour cette émission Maria Pasquet à la réalisation, Nicolas Bonnet à la technique, discret et en même temps intense, Pierry Dupin, Emmanuel Garacino pour son aide précieuse. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour mes admirations littéraires. Je vous souhaite une très bonne soirée et des lectures austères et en même temps joyeuses.